France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, fidèle à notre rendez-vous du samedi matin que nous enregistrons dans des conditions particulières, bien sûr, grâce aux prouesses des équipes techniques de notre radio. Le ton monte entre Washington et Pékin et il ne s'agit plus seulement d'un accroche verbal aussitôt gommé par la réaffirmation d'intérêts économiques communs. Le Covid-19 agit sur l'échiquier international comme il agit au sein même de nos sociétés. Il accentue les tendances lourdes, il exacerbe les enjeux. Au début de la semaine, l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé a illustré de façon saisissante ces nouveaux rapports de force entre un président américain qui menace de s'en retirer et son homologue chinois qui se présente en garant du multilatéralisme sanitaire. Xi Jinping a ouvert jeudi dernier en grande pompe l'Assemblée nationale populaire qui réunit chaque année à Pékin 3000 responsables du Parti communiste venus des tréfonds de l'Empire du Milieu. Pour le dirigeant chinois, il s'agit d'évidence de transformer le rituel en consécration de son triomphe sur une pandémie née sur son sol. À 5 mois de l'élection présidentielle, Donald Trump se débat dans une catastrophe sanitaire et économique dont il n'a pas mesuré l'ampleur à temps et il cherche à reprendre la main. Après avoir mis en cause, je cite, « l'incompétence de Pékin qui a provoqué une tuerie de masse mondiale », fin de citation, le président américain propose que le prochain G7 ait lieu à Camp David le mois prochain. Le président chinois riposte avec un nouveau coup de massue contre l'autonomie juridique de Hong Kong. Les deux géants se menacent de sanctions réciproques quand l'économie mondiale est pantelante. Le duel se déplace sur le terrain des avancées technologiques. Au-delà des discours, jusqu'où les impératifs économiques et commerciaux pèsent-ils d'un côté comme de l'autre? Quelles conséquences aussi pour l'Europe pouvons-nous tirer bénéfice de cette nouvelle forme de guerre froide? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Alice Ekman, bonjour. Vous êtes analyste responsable de la Chine et de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Avec nous, Sébastien Jean, directeur du CEPI, Benjamin Haddad de Washington, vous dirigez le département Europe à l'Atlantic Council. Des États-Unis aussi, mais de Princeton cette fois, nous avons le plaisir d'accueillir Nadège Roland, qui est chercheuse en questions de sécurité au National Bureau of Asian Research. Et je n'oublie pas Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alice Ekman, on a vu jeudi dernier l'ouverture de l'Assemblée nationale populaire de Chine, qui a été retardée de 2 mois et demi pour cause de pandémie, avec cette image saisissante, 3000 députés qui ont tous été testés et retestés à l'acide nucléique avant d'entrer dans l'enceinte du Palais des Peuples, tous masqués, à l'exception des 25 membres du bureau politique du parti et des 15 membres du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, à commencer bien sûr par le président Xi Jinping. C'est tout à fait saisissant parce que, au fond, ça signifie l'ampleur des enjeux pour le président chinois.
Oui, plus que jamais, cette session annuelle de l'Assemblée nationale populaire est un exercice de communication dans le contexte de crise liée au Covid. Outre la présentation, la mise en scène que vous avez soulignée, il y a un discours qui vante la victoire décisive de la Chine sur le virus. Donc c'est un discours national qui appelle aussi, qui qualifie cette victoire de grande muraille de solidarité rassemblant l'ensemble du peuple chinois. Donc clairement, la communication a été glorifiante dans le contexte actuel, mais ce n'est pas qu'un exercice de communication. Et l'on voit dès à présent, dans le cadre d'une conférence de presse, le porte-parole de cette session, de cette assemblée, qui rappelle finalement la rivalité avec les États-Unis, puisqu'il précise que la Chine, je cite, n'acceptera jamais les actions en justice ou demande injustifiées de compensation venant des États-Unis. Donc, il précise que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Donc, le ton est donné dès le départ, rivalité avec les États-Unis particulièrement forte et on ne voit pas de signe d'apaisement. Deuxième sujet évoqué au-delà des États-Unis, bien sûr Hong Kong, vous en avez parlé, mais clairement, il s'agit ici d'un projet de loi qui est à l'agenda, un projet de loi sur la protection dite de la sécurité nationale de Hong Kong, et c'est-à-dire une loi qui remettrait en cause l'autonomie juridique de Hong Kong. Et puis, troisième sujet d'importance, et ça c'est un sujet plus traditionnel pour ce type de grand rassemblement, c'est les questions économiques. Et aujourd'hui, donc, ces derniers jours, Li Keqiang, le Premier ministre, s'est abstenu de fixer un objectif de croissance pour l'année en cours, alors que c'est d'habitude l'usage pour ce type de rassemblement. Ceci dit, il a confirmé une tendance que l'on voyait ces dernières semaines, c'est-à-dire que la Chine va miser à fond sur une relance par les technologies. Avec l'annonce d'un vaste plan d'investissement de près de 480 milliards d'euros, qui sera dédié au déploiement de la technologie 5G, l'Internet mobile, les centres de données, la technologie blockchain, et j'en passe, beaucoup d'investissements dans ces domaines. La Chine les qualifie de nouvelles infrastructures.
On retrouve là aussi la dimension du duel frontal avec les États-Unis.
Plus que jamais, les technologies est un champ d'affrontement avec les États-Unis, parce que comme vous le savez, il y a toujours ces tensions très vives autour de la 5G de Huawei, mais progressivement, ces tensions s'étendent à d'autres technologies, avec une Chine qui investit massivement sur son territoire, mais qui souhaite aussi se positionner comme le leader mondial dans un nombre croissant de technologies. Donc, ce qu'on appelle le découplage technologique entre les États-Unis, c'est-à-dire une réduction de la dépendance technologique des acteurs du secteur de part comme d'autre, va, à mon avis, se renforcer rapidement dans les prochains mois.
Partons maintenant pour Washington, vous rejoindre Benjamin Haddad. Merci d'être avec nous. Il faut dire que le contraste paraît immense entre ces cérémonies à Pékin réglées au cordeau et l'impression que nous avons, nous, en France, en Europe, d'une scène américaine et surtout à Washington, dans le chaos. Quelle est votre impression, vous qui êtes toujours confiné à Washington même ?
Oui, alors il y a la dimension institutionnelle américaine, un système fédéral qui fait que la réponse au virus est largement décentralisée, non seulement au niveau des États, mais parfois même des comtés et des villes. Donc on a déjà des États ici qui commencent à réouvrir, alors que d'autres, et c'est le cas à Washington ou à New York, sont encore confinés sans véritable voie de sortie. Mais il faut rajouter à ça, et c'est à ça que vous faites allusion, un chaos qui est lié à la rhétorique changeante du président des États-Unis, qui au départ a été dans une forme de déni par rapport au virus, avant de finalement accepter la réalité, mais de continuer à faire un pas en avant, un pas en arrière. Pourquoi ? Parce que cette situation n'arrange pas évidemment les affaires politiques et électorales de Donald Trump, dont le principal argument de vente pour l'élection de novembre 2020 était la bonne santé de l'économie, il faut le reconnaître. Avant la crise économique qui est en train de frapper les États-Unis comme le reste du monde en ce moment, les États-Unis affichaient un taux de chômage de 3,5%, une croissance continue ces dernières années, évidemment des marchés financiers à leur plus haut historique. Aujourd'hui, les États-Unis vont en route d'une récession et affichent aujourd'hui un taux de chômage comparable à la Grande Dépression autour de 15% et qui ne fera que monter dans les prochains mois.
On voit, Benjamin, à quel point l'escalade verbale, qui n'est pas nouvelle, vis-à-vis de la Chine, qui est, aux yeux de l'administration Trump, bien évidemment, et pas seulement, il faut bien le reconnaître à ces yeux-là, responsable en quelque sorte de cette pandémie, à l'origine en tout cas. Alors, je ne résiste pas quand même à la lecture de ce communiqué qui date de mercredi dernier, signé Donald Trump. Je cite, un cinglé en Chine vient de publier un communiqué accusant tout le monde, à l'exception de la Chine, pour le virus qui a tué des centaines de milliers de personnes. Alors, il ne dit pas qui est le cinglé, mais on voit bien qu'il y a cette escalade verbale de façon à ce que la Chine soit de plus en plus le bouc émissaire vis-à-vis de l'opinion publique américaine, en tout cas.
Oui, c'est évident, et je pense que cette escalade ne va faire que augmenter dans les prochains mois, puisque on pourrait penser que c'est effectivement, vous avez parlé de bouc émissaire, que ça va être la façon pour Donald Trump de rebondir sur le plan politique, c'est de faire de la rivalité avec la Chine un argument de campagne, puisqu'il faut se rappeler que non seulement il y a la dimension stratégique et géopolitique, mais que c'est aussi un argument de politique intérieure. Donald Trump l'a emporté en 2016 en retournant la carte électorale dans des États comme le Michigan ou le Wisconsin, dans la fameuse ceinture rouillée, c'est-à-dire l'ancien cœur industriel des États-Unis qui a été victime de délocalisation. Donc évidemment, le fait de pointer là aussi la question chinoise peut permettre de parler à cet électorat. Mais vous l'avez dit, cette escalade a été renforcée, on va dire, ces dernières semaines à cause de la pandémie. Mais c'était de toute façon non seulement une priorité stratégique pour le président Trump. On a vu ses négociations commerciales ces dernières années pour essayer de rééquilibrer les chiffres de la balance commerciale des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'un des rares sujets bipartisans aux États-Unis. La question de la centralité de la rivalité stratégique avec Beijing, on entend la même chose venant des stratèges démocrates autour de Joe Biden. Donc là, on a vraiment une tendance de fond qui a été accélérée avec Donald Trump. La vraie question de la campagne et la vraie différence qu'on verra entre les démocrates autour de Biden et Donald Trump sera la méthode, et notamment la question d'inclure ou non les alliés européens et asiatiques dans la compétition stratégique qui s'annonce entre les États-Unis et la Chine.
Antoine Bondaz, Antoine, je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. On voit cette escalade verbale aussi côté chinois, où différents porte-paroles, qu'ils soient ou non des vrais faux journalistes ou les porte-paroles du ministère chinois des Affaires étrangères, ont traité en particulier le secrétaire d'État américain Mike Pompeo de tous les noms, ou plutôt de tous les adjectifs, mauvais, fou, honteux, malade et tordu. Que veut dire cette escalade côté chinois ?
On note depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois une escalade verbale côté chinois. Ça s'inscrit en réalité dans une tendance de fond qui a été initiée notamment par Xi Jinping à partir de 2013 dans une grande conférence nationale sur la propagande et le travail idéologique du 19 août 2013. Il demandait à l'époque à l'ensemble des forces vives chinoises, que ce soit les diplomates, mais aussi les médias et même les étudiants, de, je cite, « mieux faire entendre la voix de la Chine et mieux raconter l'histoire de la Chine ». Et ces expressions sont reprises régulièrement par les diplomates ou par les ambassadeurs chinois à l'étranger, et notamment par l'ambassadeur Lu Xiaoye, qui est l'ambassadeur de Chine en France.
Avec qui, vous en particulier, vous avez eu sur Twitter, si je ne m'abuse, un espèce de duel pas du tout à fleur et moucheté.
Effectivement, puisque l'ambassade de Chine en France peut évidemment défendre les intérêts de son pays et avancer ses éléments de langage. C'est d'ailleurs l'objectif de la diplomatie chinoise, de s'inscrire dans une bataille discursive et d'imposer sa version des événements ou des faits à l'étranger. Mais le problème de l'ambassade et d'autres diplomates, en général chinois à l'étranger, c'est qu'ils ont de plus en plus recours à de la désinformation, que cette désinformation elle est de plus en plus ouverte. Et je vous rappelle par exemple la déclaration du 12 avril de l'ambassade de Chine en France, qui disait, je cite, les politiciens européens ou américains considéraient que le virus, je cite, ne frapperait que les jaunes, ou encore que les personnels de santé français avaient abandonné les résidents des EHPAD et que ceux-ci étaient morts de faim et morts de maladie. Donc, ce qui est clair, c'est que l'objectif de la Chine, aujourd'hui, il est clair, c'est de rendre coup pour coup aux États-Unis et de s'inscrire de plus en plus dans une rivalité systémique. C'était l'expression utilisée par l'Union européenne l'année dernière, une rivalité systémique avec les États-Unis. L'objectif, il est de décrédibiliser le système politique américain et plus largement les démocraties et de mettre en avant ce qui est présenté comme l'exemplarité du système chinois.
Et on voit aussi Xi Jinping, et ça ce n'est pas nouveau, mais se poser de plus en plus en champion du multilatéralisme. On l'a vu dans son discours à l'OMS à Genève lundi, enfin en début de semaine. Mais c'est pas nouveau en fait.
Effectivement, on avait dès la fin des années 90 et dans les années 2000 la mise en avant par la Chine à l'époque de la multipolarité. L'idée, c'était d'affaiblir les États-Unis et d'éviter de se retrouver coincé dans une unipolarité, qui serait américaine. Depuis ces derniers mois, c'est le multilatéralisme qui revient en avant. On le voit notamment en janvier 2017, juste après l'élection du président Trump, où les diplomates chinois saisissent cette opportunité que représente l'élection de Donald Trump, en se rendant à Davos, puis à l'OMS, à l'époque, en janvier 2017, et en mettant en avant ce fameux concept de multilatéralisme, qui était par exemple le thème du discours du ministre des Affaires étrangères Wang Yi à Munich, pour la conférence de sécurité il y a quelques mois. Les objectifs, il y en a au moins quatre, c'est de ne pas être isolé sur la scène internationale, c'est de mettre en avant les initiatives chinoises, comme les routes de la soie ou autres, c'est de critiquer les États-Unis, on en revient toujours à cela, mais aussi d'essayer de séduire l'Europe, puisqu'évidemment, l'Europe met en avant beaucoup le multilatéralisme. Le seul problème pour la Chine, c'est que est-ce que ce multilatéralisme, il est régulier et constant, ou est-ce que c'est un multilatéralisme sélectif, voire même alternatif?
Et on voit aussi qu'à chaque annonce venant de Washington, que ce soit de la part de la Maison Blanche ou de la part du Congrès, il y a une riposte immédiate chinoise. Sébastien Jean, bonjour, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous dirigez le CEPI et vous êtes un spécialiste éminent des relations économiques et commerciales entre les États-Unis et la Chine en particulier. On a vu qu'au départ, et en tout cas au début de l'année, avant que la pandémie ne frappe, on a vu que l'administration Trump faisait des accords commerciaux avec la Chine un atout vis-à-vis des milieux d'affaires américains. Et là, le discours américain a changé du tout au tout avec un Donald Trump qui a dit il y a quelques jours on pourrait tout couper avec la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire?
On entend un peu tout et son contraire dans le discours américain vis-à-vis de la Chine, à savoir que, en effet, l'accord qu'ils avaient appelé de phase 1, signé le 15 janvier dernier, était censé commencer à apporter une solution au conflit commercial avec la Chine. Bon, ce qui est vraiment quelque chose de douteux, parce que dans cet accord, il n'y a au fond pas de solution pérenne au conflit entre les États-Unis et la Chine. Et aujourd'hui, on voit le résultat, disons, du caractère bancal de cet accord, c'est-à-dire que la crise ne fait qu'aviver les tensions. Donc, l'administration américaine, par rapport à ça, dit d'une part, ça ne remet pas en cause l'accord, ce qui est très paradoxal, parce qu'on sent que beaucoup de choses dans cette crise remettent au fond en cause cet accord. Et dans le même temps, justement, ils prennent un certain nombre de mesures et ils ont un certain nombre de discours qui tendent la situation. Donc, ce que vous venez de dire, les déclarations un peu incendiaires de Donald Trump, et puis des mesures beaucoup plus concrètes, notamment de resserrement, des restrictions d'exportation de produits technologiques sensibles américains vers la Chine par les entreprises américaines directement. Et ce qui est nouveau, disons, ils renforcent l'extraterritorialité de ces restrictions en limitant notamment la possibilité pour les entreprises qui utilisent du matériel américain en dehors des États-Unis de vendre aux Chinois.
Et ça vise surtout les semi-conducteurs.
Voilà, le cœur du réacteur, le nerf de la guerre, disons, dans ce domaine, ce sont en particulier les semi-conducteurs, donc notamment ceux qui sont fournis à Huawei, parce que c'est un domaine dans lequel la Chine a des besoins d'importation énormes. La Chine a investi beaucoup pour essayer d'arriver au meilleur niveau dans ce domaine, mais notamment dans ce qui est de la fabrication, de la fonderie, disons, de semi-conducteurs. Ils dépendent beaucoup, en tout cas pour les plus hautes technologies les plus à jour, de l'entreprise étrangère, en particulier le leader taïwanais TSMC, et c'est une façon de porter le fer vraiment sur ce point absolument crucial de la concurrence technologique internationale.
Et donc le TSMC taïwanais, ce qui ne manque pas d'ironie par rapport aux besoins de la Chine continentale, comment vont-ils faire? Ils doivent délocaliser aux États-Unis d'une certaine manière.
Ils ont annoncé qu'ils allaient construire une usine quand même pour 12 milliards de dollars aux États-Unis, en Arizona. Mais dans l'immédiat, la portée exacte des mesures qui ont été prises est pas tout à fait claire. Il semble que ça soit pas forcément une interdiction complète de fournir Huawei, mais une interdiction de répondre à leurs demandes pour des spécifications différentes. Je crois que c'est très intéressant parce que ça montre que, au fond, ce qui est visé avec un peu de précision par les États-Unis, là, c'est la capacité de la Chine à imposer ses normes dans la concurrence technologique sur les technologies les plus pointues.
On voit aussi que le Congrès, en tout cas le Sénat républicain, exige des règles plus strictes pour les compagnies chinoises, et non des moindres, qui sont cotées en bourse aux États-Unis, et en exigeant éventuellement leur sortie de ces cotations.
Oui, alors on est dans cette tentation du découplage entre les États-Unis de l'économie américaine avec l'économie chinoise, qui est vraiment quelque chose de très présent dans le discours, dans le débat américain par rapport à la Chine, qui met l'accent sur les interdépendances entre les deux pays, et en particulier sur la dépendance de l'économie américaine par rapport à l'économie chinoise, et qui amène beaucoup de gens aux États-Unis, parmi les politiques, mais aussi maintenant un peu dans le secteur privé, à dire il faut essayer de découpler. Ce qui en même temps pose est d'une complexité très grande et en fait à court terme n'est pas possible. Mais ça amène à essayer de viser certains liens spécifiques entre l'économie chinoise et l'économie américaine pour essayer d'atténuer ces liens, voire de les couper. Et donc là, il y en a un qui est particulièrement visé, c'est la capacité pour des entreprises chinoises d'être cotées sur des bourses américaines. Il y en a, je crois, 600 d'après un décompte récent d'une commission américaine. Et le Sénat, d'autres institutions américaines essaient de rehausser les standards, les exigences envers les entreprises chinoises qui voudraient se faire coter. C'est quand même en train de changer la donne sur les perspectives offertes aux entreprises chinoises pour se financer sur le marché américain. C'est accéléré par des scandales parfois. Il y a celui de Luckin, là, qui est un peu le Starbucks chinois. Qui est sorti de la côte aux États-Unis parce qu'il y a eu des malversations. Tout ça va un peu dans le même sens, d'essayer de mettre sous tension et de diminuer ses possibilités.
Partons maintenant pour Princeton vous rejoindre, Nadège Roland. Bonjour, merci. Merci mille fois d'être avec nous. Et revenons avec vous sur le coup de massue véritablement infligé au statut particulier de Hong Kong par cette annonce du pouvoir chinois jeudi soir. Quelle est sa signification en termes de sécurité par rapport aux objectifs de la Chine, qui donc essaie de se remettre, sur le plan économique en tout cas, de l'impact de la pandémie?
Alors, ce qui se passe à Hong Kong, en fait, c'est un peu comme le reste de notre discussion aujourd'hui. C'est le résultat d'une accumulation de choses qui se sont passées depuis des années. Le statut particulier de Hong Kong, qui est celui de, entre guillemets, un pays, deux systèmes, où la Chine s'était engagée, après la rétrocession de Hong Kong au continent en 1997, à laisser une marge d'autonomie très très large sur le territoire hongkongais.
Oui, une autonomie qui a été grignotée au fil des années. Mais donc ça veut dire que les objectifs pour Pékin restent inchangés, malgré la pandémie, malgré le coût économique de la pandémie, que le premier ministre chinois, dans son discours hier, a d'ailleurs reconnu.
Oui, absolument. C'est vrai que Xi Jinping a reconnu lui-même en février que la pandémie était la crise la plus importante à laquelle la Chine avait été confrontée depuis l'établissement de la République populaire en 1949. Donc il n'y a pas du tout de déni de l'importance et de l'impact de cette crise sur la Chine généralement. Ce qui est important de garder à l'esprit, cependant, c'est que cette pandémie ne détourne pas l'attention de Pékin de ses objectifs stratégiques. Donc, on le voit à Hong Kong, on le voit sur la pression continue sur la mer de Chine du Sud, on le voit sur la pression continue dans le détroit de Taïwan, on le voit sur ces objectifs stratégiques qu'on essaye de décrire aujourd'hui, qui s'inscrit dans cette rivalité systémique avec Washington. Donc, en fait, il faut bien garder en tête ce contexte générale de la volonté d'affirmation de puissance chinoise qui se joue dans son environnement proche, dans ses limites géographiques proches, mais aussi sur la scène internationale de plus en plus. Ce que tout le monde a décrit aujourd'hui, c'est pas une Chine qui reste confinée en Asie de l'Est, comme on l'avait pensé autrefois. Elle cherche à établir sa prépondérance dans des domaines, de façon multidimensionnelle, dans tous les domaines économiques, technologiques, diplomatiques, politiques, systémiques, comme l'a rappelé Antoine Bondaz, et qui s'inscrit également dans une volonté d'avoir une présence centrale au sein des affaires internationales, comme l'a rappelé Xi Jinping.
Mais donc, cela veut dire que le discours, enfin la rhétorique chinoise, s'adresse à quelle cible prioritaire ? Tout ce qui n'est pas occidental, en quelque sorte.
Alors, il y a plusieurs niveaux en fait d'auditoire pour la rhétorique de Pékin. D'abord, c'est un auditoire interne qui alimente l'esprit nationaliste que Xi Jinping a donné à la nation, cette volonté de renaissance de la grande nation chinoise. Donc, un esprit très nationaliste qui vise à offrir de la fierté. Au peuple chinois sur les accomplissements du parti, et notamment économique, mais de plus en plus effectivement ce positionnement international, ce rayonnement international, ce respect que d'autres pays donnent à la Chine. Donc un auditoire interne, un auditoire externe bien sûr, alors frontal avec les États-Unis, vous l'avez décrit très bien avec ce tit for tat, cette réponse face à face verbale entre les tweets du président Trump et ceux du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Et par-delà ça, en fait, Pékin, comme tout le monde l'a dit aujourd'hui, essaye de se positionner en tant que grande puissance responsable.
Et notamment sur le plan sanitaire. On a vu le déploiement d'une diplomatie sanitaire, et d'abord vis-à-vis de l'Afrique. Mais pas seulement.
Ça participe aussi de cette volonté chinoise de s'affirmer en tant que grande puissance responsable qui offre des biens publics à l'humanité, si vous voulez. Donc ça, elle a saisi l'occasion de cette pandémie pour continuer de jouer sur ce thème de grande puissance qui vient à la rescousse de pays en difficulté. Depuis 2013, l'axe principal de la diplomatie chinoise, c'est le monde en développement. On peut expliquer le déploiement des nouvelles routes de la soie en partie par cette volonté de la Chine d'accroître son influence son influence économique, son influence politique sur des pays qui ont été finalement négligés par les puissances occidentales. En fait, cette rivalité sino-américaine, elle se joue de façon directe, mais elle se joue essentiellement par des stratégies de contournement de la Chine. C'est une sorte de principe de Lénine, du sondage par la lame des baïonnettes. Si on sent de l'acier, c'est pas la peine d'insister. Si le corps est mou, on peut enfoncer la lame un peu plus profond. Et là, les corps mous, en fait, c'est ceux où les États-Unis sont en retrait, où leur influence n'est pas aussi grande. Donc le monde en développe. Certaines institutions internationales, certains organismes internationaux et d'une certaine manière les puissances moyennes comme l'Europe, comme l'Australie.
L'Australie qui est décrite de façon assez désobligeante par le porte-parole dont on a déjà parlé du ministère des Affaires étrangères chinois, qui en parle comme d'un chewing-gum qui colle à la chaussure, mais l'Australie qui fait l'objet de mesures de rétorsion économique massives pour avoir osé proposer qu'il y ait une enquête internationale sur les origines du Covid-19.
Mais oui, mais l'Australie, en fait, elle est punie parce que, justement, le fait de proposer cette enquête internationale sur les origines de la pandémie met Pékin en contradiction totale avec ce récit qu'ils essayent d'offrir au reste du monde, que le Parti communiste chinois est un parti compétent, efficace, sans faille, sans sans faute. Et du coup, ça perce au cœur de ce narratif de propagande qu'ils essayent de diffuser à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Et c'est un crime de lèse-majesté.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Sébastien Jean, retournons avec vous sur la dimension économique de toute cette compétition qui véritablement s'aiguise de jour en jour. Hier, le Premier ministre chinois, pour la première fois, n'a pas, dans son discours, fixé d'objectif de croissance à l'économie chinoise, qui, il faut le rappeler, a fléchi, je crois, de plus de 6% lors de ce premier trimestre, mais en même temps a annoncé un accroissement du budget militaire de plus de 6%. Donc ça veut dire que Pékin se préserve, encore une fois, ou conserve les moyens de projeter ses ambitions à l'extérieur en dépit des contraintes économiques qui sont majeures.
Cette capacité du parti à contrôler complètement l'économie, et donc on voit l'abandon de ce type de croissance, c'est quand même une reconnaissance de ses limitations dans sa marge de manœuvre. Ça ne va pas jusqu'à abandonner les objectifs principaux, que ce soit en termes d'influence extérieure, que ce soit en termes sociaux également. Dans le coût économique de l'influence extérieure, il y a également un test auquel on est en train d'assister, c'est que la Chine a énormément prêté ses excédents extérieurs dans le cadre du projet des routes de la soie, à des pays émergents. Et aujourd'hui, on se trouve devant la perspective d'une probable crise de la dette des pays émergents à grande échelle. Et la Chine est aux premières loges, ça, parce que on estime, il y a beaucoup d'opacité, hein, c'est un des gros problèmes dans ces prêts de la Chine, mais on estime qu'ils ont des prêts aux économies émergentes à hauteur de plus de 350 milliards de dollars. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Chine va s'en tenir à juste repousser les échéances? C'est ce qui a été fait dans le cadre du G20. On l'a essayé dans les années 80, quand il y a les crises de la dette avec le Mexique, qui est les pays d'Amérique latine, on sait que ça ne résout rien. Hein. Est-ce que la Chine va accepter d'avoir à plus grande échelle des restructurations de ses dettes, hein, donc de prendre ses pertes certaines des prêts aux pays émergents? C'est un vrai test que l'on va avoir, sachant que justement le manque d'opacité de la Chine, sa non-participation au Club de Paris dans lequel il y a une concertation entre les prêteurs officiels, rend vraiment problématique le traitement de ces problèmes de dette sur les économies émergentes.
Et l'économie chinoise repart, mais de façon poussive. Et là encore, c'est assez neuf. Le discours du premier ministre chinois le reconnaît, avec en particulier une insistance sur le chômage, un chômage de masse. Et même si les chiffres chinois sont toujours à prendre, j'imagine, avec des baguettes, il s'agirait d'un chômage de 20% au moins.
Dans les chiffres officiels, on parle de, si on est autour de 6% de chômage, on parle d'une augmentation du taux de chômage de 1%. Mais tout ça, c'est du chômage urbain et on sait très bien qu'il y a d'énormes problèmes de mesure. Et donc, on est là encore dans une grande opacité. Il y a des observateurs qui ont parlé d'un taux de chômage qui pourrait être de l'ordre de 20%. À vrai dire, c'est très difficile à dire. Je crois que ce qui est clair, c'est que ceux qui ont subi le coût économique de cette crise, qui a été terrible en Chine aussi, hein, vous avez parlé de presque 7% de contraction du produit intérieur brut en Chine au premier trimestre, on prévoit une baisse de un peu plus d'un pour cent, enfin ce que dit le FMI pour cette année. Mais ceux qui ont le plus subi le coût de cette crise, pour l'instant, ce sont les travailleurs migrants. Et parce que eux, ils n'ont pas l'assurance chômage pour beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux aussi étaient rentrés dans leur famille au moment des fêtes du Nouvel An chinois quand les mesures de confinement ont été prises et se sont retrouvés sans revenus. Et le gouvernement a pris beaucoup de mesures pour soutenir les entreprises, mais il n'a pas pris du tout l'équivalent de nos mesures de financement du chômage partiel pour maintenir les revenus des ménages. Ces ménages-là ont subi de plein fouet cette crise économique et elle est très inégalitaire au fond dans sa traduction.
Et c'est à l'issue de de la semaine de réunion de l'Assemblée nationale populaire qu'on comprendra quels sont les arbitrages retenus par le pouvoir.
Absolument, parce que l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est que jusqu'ici, la réaction de la Chine à cette crise dans sa dimension économique a été relativement timide, beaucoup moins importante que ce qu'on a constaté dans les pays occidentaux. Hein, on voit dans nos pays européens ou en France notamment des réactions gouvernementales à hauteur d'une dizaine de points de PIB. En Chine, pour l'instant, les mesures qui ont été prises dans leur ensemble sont probablement inférieures à 2 points de PIB et on est, disons, la session annuelle du Parlement va être l'occasion de décider de l'ensemble du paquet, disons, mais on parle de probablement quelque chose de l'ordre de 4%, alors qu'en 2009, ils avaient fait une relance, notamment par le crédit, qui était l'équivalent de 13% du PIB chinois. Ça montre bien que le gouvernement, en termes économiques, aujourd'hui en Chine, a beaucoup moins de marge de manœuvre qu'il n'en avait au moment de la crise financière de 2008-2009. Pourquoi est-ce qu'il a moins de marge de manœuvre? Parce que le pays est maintenant très endetté, un endettement total de 250% du PIB. Il y a un besoin d'assainissement de la sphère financière, donc on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de crédit, en termes de politique monétaire non plus. On sait que les ménages épargnent beaucoup. Si on redonne du pouvoir d'achat aux ménages, ils risquent de l'épargner plus que de le consommer. Ça ne va pas forcément être très bon, alors que c'est la demande qui a du mal à se redresser, en fait. L'investissement public des entreprises, il est faible lui aussi parce que les perspectives de demande sont faibles. Et donc finalement, on en revient à ce qui est toujours ce qui est privilégié en Chine pour la relance, c'est-à-dire l'investissement public. En essayant, comme l'a dit Alice Eichmann tout à l'heure, en essayant de bien le cibler sur ce que sont les secteurs prioritaires pour les Chinois, les nouvelles technologies, la 5G, l'intelligence artificielle, les nouveaux véhicules, les nouvelles énergies.
Précisément, Alice Eichmann, je retourne vers vous. Pour tous ceux, mais je crois qu'ils sont quand même de moins en moins nombreux quand on se souvient des résultats, mais qui sont nostalgiques de la kremlinologie. Que sait-on des éventuelles dissensions internes au sommet du pouvoir à Pékin? On lit ici ou là qu'il y aurait des crispations, une remise en cause du style ou des priorités choisies par Xi Jinping.
Oui, moi-même j'ai cessé de faire ce qu'on appelle de la pékinologie, c'est-à-dire deviner quelles seraient les tensions internes au parti, les luttes entre factions, la durée de vie ou du mandat de Xi Jinping alors qu'il a lui-même amendé la constitution pour pouvoir rester au-delà des 10 ans traditionnellement comptés pour le mandat présidentiel. J'ai cessé de le faire tellement l'opacité qui entoure le parti est forte et tellement les rumeurs dans ce contexte qui entoure le parti, notamment les tensions autour justement des luttes internes sont fortes et parfois pas toujours confirmées a posteriori et souvent d'ailleurs infirmées a posteriori. L'analyse générale, je pense, qui doit être faite sur ce sujet, c'est celle des faits, elle est liée aux faits, c'est-à-dire le parti, c'est 90 millions de membres. C'est une présence à tous les échelons de la société, on l'a vu pendant la crise épidémique, dans les hôpitaux, dans les comités de quartier, dans les universités, dans les think tanks. Enfin, tout ça pour dire que le parti lui-même reste une institution solide, omniprésente, développant un maillage géographique très dense et soutenu de plus en plus à la fois par des moyens, des capteurs, des moyens de surveillance humains, mais aussi de plus en plus technologiques, alors que le parti utilise massivement l'analyse des données agrégées, la vidéosurveillance, etc. Je pense qu'il faut conclure de cette observation factuelle, c'est que quoi qu'il arrivait aux dirigeants individuellement, il est peu probable que le parti s'effondrerait du jour au lendemain, compte tenu de cette structuration du territoire et de son omniprésence. Et d'autant plus ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressentiment hein, et de critiques internes vis-à-vis du parti, même à l'intérieur du parti ou dans la population. Le ressentiment sentiment certainement existe, mais il est très risqué de l'exprimer dans le contexte actuel, alors que Xi Jinping a renforcé des mouvements de recadrage des cadres du parti, des mouvements, des sessions de critique et d'autocritique entre camarades, enfin les bonnes vieilles méthodes maoïstes qui sont toujours omniprésentes et amènent les cadres, même les plus critiques, à revoir, à repenser deux fois leur volonté éventuelle d'exprimer ces critiques. Il existe clairement une forme de peur au sein du parti, une peur qui est beaucoup plus forte que celle qu'on pouvait observer d'une manière ou d'une autre pendant le mandat de Hu Jintao, qui était en poste de 2002 à 2012.
Mais on a cru quand même, en pleine pandémie, et notamment début février, me semble-t-il, au moment de la mort de ce jeune médecin de Wuhan, qui avait été réprimandé parce qu'il avait osé participer à un mouvement de lanceurs d'alerte au sujet du Covid. On a vu quand même dans la cybersphère chinoise des vagues d'indignation s'exprimer. Est-ce que c'est une faille qui déjà a été comblée?
En tout cas, la propagande et le système de censure a vite ajusté le tir, parce qu'au départ, donc, ce docteur Li Wenliang, qui était un des lanceurs d'alerte de l'épidémie à Wuhan, avait été rappelé à l'ordre donc par les autorités locales et la police. Quelques semaines, donc, en effet, comme vous l'avez dit, il y avait un certain nombre de commentaires en ligne de soutien et des commentaires critiques vis-à-vis du parti. Très vite, la censure s'est renforcée vis-à-vis de ces commentaires. Et puis la propagande, elle, a essayé d'ajuster le tir, donc en glorifiant ce docteur comme un héros national qui a défendu la patrie. Donc c'est un parti qui s'adapte. De là est son intelligence et aussi sa capacité de résistance. C'est à la fois une institution rigide et flexible, un peu butée et intelligente, si je puis me permettre, et qui s'adapte relative, enfin tout est une question de proportion, mais dans certains cas arrive à ajuster le tir. Alors à quel point cela a des conséquences sur l'opinion publique, c'est très difficile à mesurer actuellement, mais on a il faut pas sous-estimer le poids de la propagande et aussi le poids de la communication, du récit national. C'est-à-dire que quand vous entendez toujours le même message au JT de 19h, même sur les réseaux sociaux, parce que la propagande est aussi très active sur les réseaux sociaux avec plein de volontaires, mais aussi des agents de communication qui communiquent en faveur du parti pour soutenir avec des termes d'apparence spontanée la ligne officielle. Quand on entend toujours le même message, parfois on finit par y croire, ou en tout cas il est très difficile de le remettre en question compte tenu de l'uniformité de la couverture. D'ailleurs, on voit bien aussi la couverture actuelle qui est faite par les médias chinois de cette session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, qui est très uniforme, toujours avec la même photo, avec les mêmes titres, avec les mêmes mots-clés. Et la communication officielle chinoise fonctionne beaucoup par mots-clés. Donc victoire décisive, et puis aussi il y a des expressions clés, nouvelle route de la soie, point de vue diplomatique, communauté, destin commun, etc. Et puis vous avez parlé par exemple sur le multilatéralisme, une Chine qui souligne que son soutien au multilatéralisme, etc. Et c'est important aussi de prendre en compte non seulement l'efficacité de cette communication au niveau national, mais aussi au niveau international. Certains pays sont de plus en plus agacés par la communication officielle chinoise, notamment par exemple par la communication qui a entouré son assistance liée à l'envoi de masques et de produits d'équipements médicaux dans le cadre de la crise. Alors certains disent mais c'est vraiment une utilisation politique de cette crise, mais d'autres pays ne voient pas les choses de la même manière.
Oui, même au sein de l'Europe.
Oui, même au sein de l'Europe, ou même au-delà de l'Union européenne, sur le territoire européen au sens large, on pourrait citer la Serbie, les communications officielles en Serbie. Mais de manière générale, je pense que c'est important de ne pas généraliser sur le plan diplomatique la réception de la communication officielle chinoise. À la fois, on note un agacement croissant de certains pays vis-à-vis de la communication et du positionnement diplomatique chinois. Mais au même moment, la Chine n'est pas isolée, n'est pas totalement isolée. Et donc, on s'oriente vers une drôle de bipolarisation du monde, de mon point de vue, qui est floue. avec la Chine qui cherche, ça c'est selon le terme officiel, à renforcer, à élargir son cercle d'amis. C'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, mais en premier lieu les pays en développement, mais aussi une relation qui reste étroite avec la Russie. Et renforcer ce cercle de pays amis, mais c'est-à-dire qu'elle le fait en proposant de l'initiative à tout le monde, à un nombre maximum de pays. C'est-à-dire elle a proposé, comme vous le savez, une nouvelle route de la soie, elle propose aujourd'hui des solutions technologiques, la 5G. D'ailleurs, dans le cadre de la crise pandémique, elle a envoyé des caméras à reconnaissance faciale avec la capacité de mesurer la température, par exemple. Elle a envoyé cela à certains gouvernements. Elle a fourni le gouvernement kényan, par exemple, au gouvernement pakistanais en système de vidéoconférence. Elle a également fourni des drones. Donc elle se propose justement comme une puissance qui ne cesse de proposer.
Oui, tous les outils de surveillance, bien sûr, qui conviennent à des régimes à tendance ou en engrenage autoritaire. Retournons aux États-Unis, vous rejoindre Nadège Roland, et là, bien évidemment, mais c'est une immense démocratie, on ne va pas s'en plaindre, le tableau est exactement l'inverse, et il est vrai qu'on a tendance à focaliser l'attention sur le président et sur ses tweets. Jusqu'à quel point est-ce que l'appareil diplomatique et sécuritaire américain s'ajuste à cette escalade véritablement des tensions entre Washington et Pékin, au-delà encore une fois du vocabulaire et des gesticulations, si j'ose dire, de Donald Trump?
Oui, alors l'administration elle-même, c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que Trump, c'est l'administration, mais c'est pas le cas. Le département d'État, le Pentagone notamment, mais aussi le département du commerce et d'autres, sont tous maintenant dans cet esprit de compétition entre grandes puissances. Qui a été défini à la fin de l'année 2017 par un document qui est le document sur la sécurité nationale américaine. Donc ce document en fait définit les grandes lignes et prend en compte le fait que les 20 années de guerre antiterroriste américaine sont terminées et que maintenant, en fait, les États-Unis se trouvent dans une situation où, face à Chine et Russie, mais beaucoup Chine quand même, le pays doit se repositionner. Alors, bien sûr, ces directives mettent du temps à se mettre en place. Le département d'État s'est vidé de ses diplomates petit à petit. Donc on a des sections entières du département qui n'ont pas de directeur ou même pas de sous-directeur, des ambassadeurs qui n'ont pas été nommés. Donc conduire une diplomatie dans ces conditions, c'est un petit peu compliqué.
Et un secrétaire d'État qui a manifestement des visées, enfin des ambitions politiques domestiques, si j'ose dire.
Qui n'a pas d'ambition politique ici, donc c'est un petit peu général, bien sûr, il essaie de se positionner probablement
pour une succession éventuelle. Mais cette stratégie de compétition entre les grandes puissances, on a l'impression quand même que la Russie reste une priorité davantage encore que Pékin sur le plan stratégique traditionnel. On vient de voir l'annonce, par exemple, du retrait d'un traité de limitation des armements, sous prétexte que la Russie ne le respecte pas.
Je dirais pas que c'est une priorité stratégique. Je pense que les deux sont traités sur le même plan de façon stratégique. Maintenant, c'est vrai que je dirais que la compétition avec la Russie, elle est très fortement orientée sur le domaine militaire, alors que la compétition avec la Chine, et on l'a rappelé, elle est multidimensionnelle. Elle est sur le plan économique, sur le plan technologique, etc., etc. Donc, les volets de terrain de compétition, de rivalité est beaucoup plus large avec la Chine, et donc la stratégie américaine doit faire appel à plusieurs instruments. Ce qui a été rappelé tout à l'heure sur Huawei et sur le découplage économique, ça fait partie de cette volonté de de mieux se défendre face au à Pékin qui pousse ses feux dans ce domaine-là. Donc il y a une dimension commerciale, évidemment, il y a une dimension diplomatique, encore une fois avec des problèmes du point de vue américain parce que l'appareil diplomatique est affaibli. La dimension militaire, elle est toujours très présente et également, mais vous savez, transformer un appareil militaire qui pendant 20 ans a servi essentiellement à mener des actions de stabilisation, des opérations de stabilisation dans des zones à haute intensité terroriste, la guerre, guérilla urbaine, etc. Et tout d'un coup la faire passer dans une nouvelle dimension qui est celle de la possibilité d'un conflit avec la Chine, puissance nucléaire, ça demande des réajustements qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Mais ils sont en cours. Les États-Unis ont déployé des sous-marins, ils ont leurs porte-avions qui sont présents en Asie-Pacifique. Ils conduisent des opérations de liberté de navigation régulière. Donc cette dimension militaire, on la voit pas forcément tous les jours, elle est pas forcément visible comme les tweets du président, mais elle est bien là et elle continue, et le département de la défense continue de réfléchir à des nouvelles solutions pour continuer à s'affirmer dans cette dimension militaire également.
Benjamin Haddad, qu'en est-il de la proposition de Donald Trump, qui a quand même surpris, encore une fois, qu'un G7 ait lieu dès le mois prochain, alors qu'hélas, la pandémie aux États-Unis continue de sévir massivement, donc un G7 qui pourrait avoir lieu, a-t-il dit, à Camp David, et puis peut-être non, peut-être plutôt à Washington, mais aussi à Camp David. Emmanuel Macron, lui, a déjà dit pourquoi pas, à condition bien sûr que les conditions sanitaires soient réunies. Quel est le sens de cette proposition ?
Alors, on voit de la part du président Trump une volonté de reprendre le cours des choses normal, reprendre la vie le plus rapidement possible. Hein. Ça a été ce que je disais tout à l'heure. Déjà, ça s'est caractérisé par une forme de déni au début, notamment en février-mars, dans les premiers mois du virus, avant finalement d'accéder à la nécessité d'imposer des confinements. Mais aujourd'hui, le président Trump, sur le plan intérieur, est en train de mettre sous pression les États pour réouvrir l'économie le plus rapidement possible, pour mettre fin au confinement, avec parfois même des tweets assez surprenants, « Liberate Michigan », donc vraiment en mettant sous pression les gouverneurs des États et les villes pour réouvrir. Donc on voit aussi...
Surtout quand ce sont des gouverneurs démocrates, bien sûr.
Surtout quand ce sont des gouverneurs démocrates, puisque de toute façon, les gouverneurs républicains, on le voit par exemple en Floride, sont en train d'accéder à cette pression et de réouvrir. Donc on verra évidemment l'impact que ça aura sur les chiffres de la pandémie dans les prochains mois. Et donc cette proposition du G7, elle correspond aussi à une volonté de reprendre une activité diplomatique normale. Et d'ailleurs, ça se concrétise avec des polémiques ces dernières semaines. On a vu le vice-président Mike Pence visiter un hôpital sans porter de masque. Enfin, donc, on voit vraiment cette administration qui essaie de pousser la reprise de l'activité, notamment de l'activité économique, le plus rapidement possible.
Qu'en est-il de l'opinion publique américaine ? On voit que l'hostilité à l'égard de la Chine et aussi, il faut bien dire, des expressions de racisme contre les sino-américains, enfin contre et les étudiants en particulier dans les universités américaines. Comment est-ce que l'opinion publique évolue ?
Oui, alors bon, ça a été d'ailleurs exploité hein, par l'administration Trump dès le début, qui a voulu imposer les termes de virus chinois, de virus du Wuhan, y compris sur le plan diplomatique. Un G7 au début de la crise n'a pas pu aboutir à un communiqué parce que les dirigeants américains insistaient sur la mention du virus du Wuhan virus. Et on voit évidemment que ça se répercute dans l'opinion publique américaine. Mais de toute façon, encore une fois, cette rivalité systémique, stratégique avec la Chine, c'est un sujet qui dépasse largement l'administration Trump, même si le président en a fait une priorité. Alors une priorité sur des sujets assez étroits, c'est-à-dire notamment sur la question de la balance commerciale, avec une vision très jeu à somme nulle de l'économie internationale, et donc cet accord phase 1 avec la Chine qui visait avant tout à essayer de rééquilibrer les chiffres du déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine. Mais c'est clairement un sujet qui s'étend au-delà de l'administration Trump. On voit aujourd'hui Joe Biden qui est entouré de stratèges qui sont pour l'essentiel des vétérans de l'administration Obama. C'était cette administration Obama déjà qui avait annoncé le pivot vers l'Asie-Pacifique avant d'être rattrapé évidemment par la Russie en Ukraine et par le Moyen-Orient avec l'émergence de Daesh, mais on voyait déjà ce pivot progressif. Et on voit aujourd'hui les stratèges autour de Joe Biden qui insistent sur la nécessité d'intégrer les outils économiques dans la stratégie de puissance américaine dans sa rivalité avec la Chine, la reprise peut-être d'une forme de d'accord commercial comme le traité transpacifique avec les partenaires asiatiques des États-Unis. Ça avait été l'une des priorités de l'administration Obama qui avait été abandonnée après par l'administration Trump, et évidemment une stratégie pour essayer d'inclure les alliés européens, mais qui là aussi, hein, même dans une administration Biden, de fait se traduira par une forme de pression vis-à-vis des Européens. À la conférence de sécurité de Munich au début de l'année, Nancy Pelosi, qui est une démocrate, une opposante chevronnée à Trump, qui a mené la procédure d'impeachment contre lui, mettait en garde les Européens contre l'adoption de la technologie Huawei pour leur réseau 5G. Donc reprenons ici les éléments de langage de l'administration Trump.
Précisément parce que nous en venons, pardon Benjamin de vous couper, mais je voudrais laisser à Antoine Bondaz la conclusion rapide de cette discussion. Jusqu'à quel point, Antoine, est-ce que nous autres Européens, nous sommes pris en étau, en quelque sorte, dans cet engrenage entre Washington et Pékin?
Ce qui est sûr, c'est que l'Europe est de plus en plus un terrain de jeu de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. On le voit en termes de communication, on le rappelait tout à l'heure, mais aussi dans des questions beaucoup plus politiques. Les États-Unis ont fait pression à partir notamment de 2018, chez certains de leurs alliés, notamment en Europe de l'Est, pour par exemple qu'ils n'acceptent pas d'utiliser les produits de Huawei, etc. Il y a eu des pressions, que ce soit bilatérales, mais aussi à travers l'OTAN. Et du côté de la Chine, ce qui est très intéressant, c'est que la conception de l'Europe, elle est ancienne, les Chinois ont parfaitement conscience des faiblesses institutionnelles de l'Union européenne et leur objectif, c'est de faire de l'Europe, entre guillemets, le ventre mou de l'Occident et de neutraliser l'Europe, c'est-à-dire en cas de conflit ou en tout cas de confrontation de plus en plus grande entre les États-Unis et la Chine, de faire en sorte que l'Europe ne prenne pas position. Et pour cela, ça fait de nombreuses années que de nombreux théoriciens chinois cherchent et travaillent sur cette question. Par exemple, Yan Xuetong de l'université de Tsinghua, et lui, dès 2013, conceptualisait l'Union européenne en trois grandes zones, des pays qui potentiellement pouvaient être intéressés pour se rapprocher de la Chine. Il mentionnait notamment la Grèce, l'Italie, des pays comme la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui tout le temps chercheront, entre guillemets, à trouver une via média entre les États-Unis et la Chine, et puis des pays, notamment en Scandinavie et notamment en Europe de l'Est, qui sont parfois plus proches des États-Unis et dont l'objectif, entre guillemets, est d'éviter qu'ils deviennent anti-chinois.
Nous voilà prévenus, nous autres Européens, à nous autres d'essayer de saisir les opportunités que pourrait offrir cette escalade entre Washington et Pékin. Merci à vous tous. Merci à vous, Alice Ekman. Vous avez publié en début d'année « Rouge vif, l'idéal communiste chinois » aux éditions de l'Observatoire. Benjamin Haddad, vous avez publié chez Grasset « L'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes ». Sébastien Jean, je recommande l'ouvrage collectif aux éditions « La découverte, l'économie mondiale en 2020 », pleine d'enseignements. Antoine Bondaz, spécialiste aussi de la Corée du Nord, plongé au cœur d'un État totalitaire aux éditions du Chêne en 2016. Et je remercie particulièrement Nadège Roland du National Bureau of Asian Research qui était avec nous depuis Princeton. À la réalisation ce matin, Laurent Polleret, à la technique Alexandre Dang, Hugo Boursier a bien sûr préparé cette émission. Et comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end. À samedi prochain.